Alors, comme je l'ai dit à pas mal d'entre vous, si vous recevez mes petits mails, pour la suite de cet été, je vais continuer dans le prophète Ésaïe. S'il y a des absences, c'est pas grave, parce que de toute façon, tout est enregistré, sera disponible sur le site. Alors que voilà, sur la plage, vous pouvez écouter la suite si vous partez encore au mois d'août. Donc, on va regarder la suite d'Ésaïe. Ce sont des chapitres assez longs, donc on va les lire morceau par morceau, en quelque sorte, extrait par extrait, et je vais faire quelques commentaires. Mais avant de nous lancer dans cette lecture, quelques mots d'explication. D'abord, on peut se dire, mais pourquoi on lit des écrits qui ont 2500 ans d'existence? Bon, je crois qu'il y a deux raisons. La première raison, ça fait partie du déroulement du plan de Dieu pour l'humanité. Donc, tout au long de l'Ancien Testament, en préparant un peuple qui va être le berceau du Christ, donc qui va être le peuple qui reçoit le Messie, le Sauveur. Et la deuxième raison, Paul le dit dans les Romains, un verset que j'ai déjà cité dans ce contexte, Romains 15, verset 4, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous allons lire une page qui concerne l'histoire du peuple d'Israël. Mais ce que Dieu demande à Israël, il nous demande à nous aussi, dans un contexte différent. Donc, il faut sortir de l'histoire, à la fois l'idée que ça s'est vraiment passé comme cela, parce que c'est partie du plan de Dieu qui se déroule, et deuxièmement, c'est le principe de la relation entre Dieu et son peuple, et pareil pour nous, dans notre contexte. Alors, je rappelle ce contexte avec une petite carte, parce que presque tout dans les 39 premiers chapitres d'Ésaïe concerne ceci. Voilà, on a Israël ici, donc vous situez à Jérusalem, avec les deux grandes puissances mondiales, Égypte et la Syrie, qui se confrontaient tout le temps. Et à l'époque d'Ésaïe, c'est la Syrie avec sa capitale à Ninive, qui est l'ascendant, qui est la grande puissance, et donc qui est venu envahir toute cette partie-là. Ils traversent par là, ils viennent par là, parce que ça c'est le désert. Et donc ils viennent et ils commencent à occuper le territoire. Et le roi Ézéchias a dit, oh là, il faut que je me défende. Alors, il fait appel à l'Égypte pour dire, je vais vous donner de l'argent, ou une tribu comme on dit, si vous venez me protéger. Donc ça c'est la situation. Et en un mot, on l'a déjà vu, le roi fait plus confiance à l'Égypte qu'à Dieu. Et c'est le premier verset du chapitre 31 qui peut le résumer en une seule phrase. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Donc voilà le principe. L'idolâtrie, dans un sens, au sens large, il va être question de ça aussi, c'est là où on place sa confiance plutôt qu'en Dieu. On peut dire ça, l'idolâtrie. Donc voilà la situation. Un petit spoiler, parce que à la fin de ces chapitres, il y aura un récit historique et le roi Ézéchias va revenir à Dieu sous l'impulsion d'Ésaïe pour faire confiance à Dieu et Dieu va délivrer Jérusalem de l'envahisseur. Si j'ai dit le spoiler, c'est parce qu'il y a un petit point un peu plus loin dans le chapitre 30 où je suis obligé d'en parler un petit peu parce que ça fait partie de l'histoire. Donc voilà la situation et c'est à nous, tout en lisant ces chapitres, de se dire, voilà, et moi, et moi, et moi, en quoi ça me concerne. Alors, commençons avec le chapitre 30 et les versets 1 à 7, où je reviens à cette phrase, malheur si le peuple cherche l'appui des Égyptiens plutôt que de faire confiance à Dieu. Je lis. Malheur. Je rappelle aussi, parce que ça fait pas mal de semaines où je ne l'ai pas dit, on est dans le livre des malheurs, chapitre 28 jusqu'au chapitre 31, il y a beaucoup de malheurs à. On appelle ça le livre des malheurs. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte, la protection de l'Égypte. Verset 3. La protection du Pharaon retournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. En effet, ses ministres sont à Tsoan, ses messagers ont atteint Annès. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur à travers une région de détresse et de désarroi. Donc c'est le Négève, au sud du pays. Patrie de la lionne et du lion, de la vipère et du serpent volant, ils portent leur richesse à Dodane. Ils portent leur trésor sur la bosse des chameaux pour les donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. En effet, le secours de l'Égypte est illusoire et creux. C'est pourquoi je l'ai appelé le monstre au repos. Donc voilà. On répète un petit peu toute mon introduction. La rébellion politique contre l'Assyrie et la recherche de l'aide de l'Égypte, ce n'est pas seulement politique. C'est un rejet de Dieu. Comme j'aime bien cette expression française, un train peut en cacher un autre, quand vous voyez au passage à niveau. Alors, le fait d'aller chercher de l'aide en Égypte cache en fait un refus de Dieu, un rejet de Dieu. Mais on voit au verset 4, au verset 6 et 7, que les envoyés étaient déjà partis. Au verset 4, ses ministres sont déjà à Tsoan, ses messagers ont atteint Annès, donc ce sont des villes dans le delta du Nil, au nord de l'Égypte. Et au verset 6 et 7, on décrit comment ils traversent le Négève pour porter des richesses à Dodane, des trésors sous la bosse des chameaux. Parce que si l'Égypte va intervenir, c'est parce le pays est intéressé. Et bon, le pays va recevoir toute la richesse d'Israël. Ils essaient d'acheter, si on veut, le secours de l'Égypte. Ce n'est pas dans l'intérêt d'Égypte, sauf de recevoir ces richesses. Et Dieu appelle l'Égypte, il y a différentes traductions, le monstre au repos. Le sommaire dit l'agité au repos, c'est-à-dire que quelqu'un qui a l'air de vouloir agir, mais qui fait rien. Donc, un pays qui ne fait rien, malgré toute sa fanfaronnade, on va dire, qui fait rien du tout. Et donc, ce secours est illusoire et creux. verset 7. Alors, on va aller un petit peu plus loin, les versets 8 à 11. Maintenant, viens écrire cette parole devant eux sur une table, donc une tablette, on va dire, et enregistre-la dans un livre afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. En effet, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, aux prophètes, « N'ayez pas de vision, aux prophètes, ne nous révélez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères. Détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier. Cessez de nous confronter au sein d'Israël. » Donc Dieu parle au prophète, Ésaïe, et il lui dit, « Viens écrire. » Ce témoignage. Mets cela par écrit, voilà ce qu'il est en train de faire, hein. Nous sommes en train de le lire. Mets-le par écrit pour qu'on s'en souvienne à l'avenir. Un témoignage éternel pour les jours à venir. Je pense qu'Ésaïe n'avait jamais entendu parler de Paris, même de Lutèce, à l'époque. Il ne savait pas que 2500 ans après, nous, réunis à Paris, on allait lire ces paroles qu'il a écrites. Mais il savait qu'il devait les écrire. Donc, pour notre instruction. Je pense qu'Ésaïe aurait été bien surpris, d'ailleurs, de le savoir. Et il dit, voilà, il doit écrire que Israël est un peuple rebelle et menteur. Et même qu'ils disent aux prophètes, taisez-vous, en quelque sorte. Ne nous parlez pas du Saint d'Israël, ne nous mettez pas en face de Dieu. Dites-nous des choses flatteuses. Tout va bien se passer, Madame la Marquise. C'est ça. Versets 12 à 14. C'est pourquoi, voici ce que dit le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion et les prenez pour appui, cette faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Esprit comme un vase en terre cassé son ménagement, et l'on ne trouve aucun morceau parmi les débris pour aller prendre du feu au foyer ou puiser de l'eau à la citerne. Alors, voilà, ce sont un peu les conséquences. Au début, les conséquences ne sont pas très visibles. C'est comme une muraille avec une petite fissure, mais qui grossit. Et à la fin, c'est la muraille qui tombe. Au début, on ne voit pas grand-chose, mais à la fin, c'est toute la muraille. Ou bien, c'est comme un vase en terre cassé. Et donc, indirectement, on a vécu ça cette semaine avec une de nos filles et ses enfants. On était dans un petit diner américain. Elle voulait nous faire goûter des choses là. Et à un certain moment, le serveur laissait tomber un verre sur la table. 1000 morceaux. C'est pas un verre qui se casse en deux ou trois parts, mais il y avait 1000 morceaux par terre. Il fallait aller chercher un balai. Et Dieu dit, bah, vous, Israël, sera comme ça. Si vous n'écoutez pas, c'est un muraille qui va tomber ou un verre qui se casse. Les conséquences seront assez, qu'on peut dire, assez dures à la fin. Versets 15 à 17. Parce que Ésaïe ne reste pas simplement dans le négatif. Voilà, c'est une exhortation à revenir à Dieu. Ésaïe 30, verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. Et le repos qui sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous nous enfuirons à cheval. Mais voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons des chevaux rapides. Mais voilà pourquoi vos poursuivants seront plus rapides. Un millier fuira à la menace d'un seul. Vous fuirez à la menace de cinq hommes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous. Il n'y a plus de vous qu'un reste isolé comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Donc, il dit, mais même si vous faites confiance à ces chevaux égyptiens, vos ennemis auront des chevaux encore plus rapides. Vous ne pourrez pas vous enfuir. Au contraire, et c'est un verset que l'on cite souvent, on le voit sur les calendriers bibliques, on le voit parfois sur des petits affiches qu'on peut acheter à la maison de la Bible, ce verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance, le retour à Dieu et le repos. On a beaucoup plus de confiance et de calme en faisant confiance à Dieu qu'en cherchant par tous les moyens à faire face à une difficulté. Et le verset 18 est remarquable. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. L'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. D'abord, ce mot, la grâce, que nous avons déjà chanté, heureusement, à plusieurs reprises ce matin, parce que c'est le grand mot qui nous réjouit le cœur, la grâce. Mais il attend. Et dès que j'ai lu ce verset, j'ai pensé aussi à cette parabole de Jésus, du fils prodigue. Avec le père qui attend le retour, qui doit le guetter tous les jours. Parce que dans le texte, il est dit que le père a vu le fils prodigue revenir de loin. Donc tous les jours, je pense qu'il guettait, il attendait, il regardait l'horizon, est-ce que le fils va revenir. Et Dieu attend que Israël revienne à lui. C'est ce qu'on a déjà vu au verset 15. C'est dans le retour à moi que sera votre salut. Et Dieu attend. Il ne force pas. Parce qu'il ne nous laisse pas comme des marionnettes ou des automates. Nous avons notre liberté. Il attend que nous revenions à lui pour qu'il puisse faire grâce. Et il nous prononce à ce moment-là, heureux, heureux tous ceux qui comptent sur lui. Alors, il veut faire trois choses pour son peuple. Et on va les lire progressivement. Il veut enseigner et guider son peuple. Il veut restaurer son peuple. Il veut protéger son peuple. Il attend pour le faire. Versets 19 à 22. Donc, il veut enseigner et guider son peuple. Je lis. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras pas. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus, tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Donc, il veut qu'on l'écoute. Et on est sur le chemin étroit, hein, pour utiliser la parole de Jésus, c'est le chemin étroit qui mène à la vie. Et si on s'éloigne à droite et à gauche, on entend derrière nous le Saint-Esprit qui nous murmure à cela. Attention, revenez un peu vers la gauche, revenez un peu vers la droite, restez sur le chemin. Il y avait un film, l'homme qui murmurait aux oreilles. Alors, je pense que. Mais là, on peut dire que les chrétiens, ce sont les hommes. Dieu murmure aux oreilles des chrétiens pour dire voilà, pas à gauche, pas à droite, restez sur le chemin. Donc, il veut nous enseigner, il veut nous guider. Je pense que certains ont vu ce film. Versets 23 à 26. Vous considérerez comme impur l'argent qui recouvre vos sculptures sacrées et l'or dont elles sont plaquées. Tu disperseras leurs débris comme un linge souillé. Dehors, leur diras-tu. Alors, il arrosera depuis la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux. et nourrissant. Et ce jour-là, tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura étalé avec la fourche et la pelle. Et sur toute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des canaux, des courants d'eau, et le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écouleront. La lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareille à la lumière de 7 jours, le jour où l'Éternel soignera la fracture de son peuple et guérira ses blessures. Donc, il veut restaurer son peuple, et dans un monde d'économie agricole, la preuve pour Israël, c'est que tout va bien se passer dans les champs. Donc les troupeaux qui vont brouter de vastes pâturages, les bœufs et les ânes qui vont labourer la terre. On pourra étaler du fourrage avec la fourche et la pelle. Donc tout va bien se passer. Mais cette partie termine avec un langage plutôt apocalyptique. Parce qu'il faut dire que, en fait, j'ai préparé ici, ceci jeudi, il faisait 42 degrés, et j'ai lu le verset 26, que le soleil sera 7 fois plus grande, la lumière du soleil sera 7 fois plus grande qu'actuellement. Et dis-moi, waouh, si c'est au pied de la lettre, on est mal. Mais c'est le langage apocalyptique avec une certaine exagération, donc pour dire, tout va vraiment bien se passer. Et c'est pour cela qu'il dit d'ailleurs que au verset 25, il y aura même des courants d'eau en haut des collines. Bon, enfin, les sources, oui, mais pas les grands courants d'eau. Donc, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais c'est une façon de dire que tout va bien se passer. Il y aura toujours assez de soleil, il y aura toujours assez de pâturage, il y aura toujours assez d'eau pour que tout se passe bien. Donc, Dieu veut restaurer son peuple. Et puis les versets 27 et 33, Dieu va protéger son peuple. Et là, donc, il va revenir à la situation actuelle pour eux avec les Assyriens. Donc, je lis du verset 27 à 33. L'Éternel arrive de loin. Sa colère est ardente, elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur, sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou. Il passera les nations au crible de la destruction, il passera aux mâchoires des peuples, le mort de l'égarement. Vous chanterez comme la nuit, on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté. Il montrera son bras prêt à frapper, à cause de l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête, des pierres de grêle. Et à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera à coups de bâton, et à chaque coup de bâton qui lui est destiné, et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. C'est ouvertement que l'Éternel combattra contre lui. Depuis longtemps, le bûcher est prêt, et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large. Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre. Alors, plusieurs choses dans ce texte. D'abord, la fin du verset 32, l'Éternel combattra contre lui. Jusqu'ici, le combat de l'Éternel, c'était presque contre son propre peuple, pour que le peuple revienne à lui. Maintenant, le combat, c'est contre les Assyriens qui viennent s'attaquer à Jérusalem. Et Dieu veut intervenir. Et de nouveau, il y a un langage tout à fait apocalyptique. On parle de tous les peuples qui sont passés au crible, la destruction, son souffle comme un torrent qui submerge les gens jusqu'au cou. l'ardeur de sa colère, une flamme d'un feu dévorant, etc. Et je pense qu'il y a un petit détail dans ce texte qui montre que si Dieu va intervenir, il faut aussi faire la différence entre le langage qui est utilisé et la réalité. Dieu va mettre fin à tout mal. Il va le juger. Mais il faut aussi dire que le langage imagé ici n'est pas à prendre au pied de la lettre. La preuve, c'est qu'il dit par exemple à la fin que le roi va être brûlé sur un bûcher préparé depuis longtemps, composé de feu, de beaucoup de bois, le souffle éternel l'enflamme comme un torrent embrasé, alors que, c'est pour ça que j'ai parlé de spoiler, à la fin de cette section, au chapitre 37, en fait, le roi est reparti à Ninive, a été assassiné, poignardé par ses fils. Donc, la réalité politique, c'est qu'il était poignardé. Le langage, c'est qu'il va brûler sur un bûcher. Donc, il faut faire la différence entre ce langage très imagé, très poétique, apocalyptique, et la réalité que Dieu va quand même intervenir et juger le mal. Encore une petite question par rapport à cela, parce que pendant que Dieu fait cela, que fait le peuple d'Israël? Le verset 29. « Vous chanterez comme l'agneau, on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte. » Ou bien le verset 32. « À chaque coup de bâton qui est destiné à l'Assyrien, on entendra des tambourins et les harpes. » Alors, est-ce que on a le droit de se réjouir du châtiment qui est imposé à l'ennemi? On peut dire la même chose pour la fin du monde. Est-ce qu'on va se réjouir? Est-ce qu'on sera triste au moment du jugement dernier? Et je pense que si on sera solennel devant le jugement de Dieu, on aura quand même une certaine réjouissance. Pourquoi? Parce que ça va montrer que le jugement de Dieu est juste. Il y a tellement d'injustices dans le monde, et ceux qui ne sont pas chrétiens, je ne sais pas ce qu'ils en font. Parce qu'il y a tellement de choses faites dans le secret, tellement de décisions prises par des militaires, par des personnes qui font de mal, tellement de criminels, et qui, aux yeux humains, ne sont jamais punis. De temps en temps, on attrape quelqu'un, on le juge, on met en prison, mais il y a beaucoup de gens qui ne souffrent pas du fruit de leur injustice. Mais là, on peut être sûr que Dieu, qui voit tout, va châtier chacun selon ce qu'il mérite. Et la seule issue, c'est la grâce de Dieu pour nous, parce que nous, on le mérite aussi. Et la deuxième raison pour laquelle on peut dire qu'on peut se réjouir, c'est que on se réjouit par rapport à l'honneur de Dieu, qui est juste et bon. Et les gens qui disent, s'il y avait un bon Dieu, pourquoi il ne faisait pas ceci, pourquoi il ne ferait pas cela? Non, Dieu va intervenir. Et c'est la raison pour laquelle, quand on récite le Notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié, honoré, et que ton règne vienne. J'aime bien d'ailleurs la traduction du Semeur pour ça, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu pour Dieu, et Dieu sera reconnu comme tel. Donc il y aura une certaine joie de le savoir, d'autant plus que dans sa grâce, il nous a sauvés pour échapper à ce jugement universel. Et finalement, on passe au chapitre 31, qui est un petit peu plus court. Le verset central, on va dire, c'est le verset 6. La pensée centrale. Revenez à celui dont les Israélites se sont profondément détournés. Ce jour-là, chacun rejetterait ses faux dieux en argent et en or, ce que vous êtes fabriqués de vos propres mains pécheresses. Donc, vous rappelez déjà au chapitre 30, les deux aspects. Dieu attend pour faire grâce, mais revenez à moi. Il faut la repentance, il faut reconnaître qu'on mérite le jugement, mais Dieu fait grâce. La bonne nouvelle dans le Nouveau Testament, c'est que par le Saint-Esprit qui nous montre que nous sommes pécheurs. Donc c'est aussi sa grâce. Donc voilà ce message de retour et de grâce. Et on va voir en deux petits tableaux, d'abord les versets 1 à 3, que le secours recherché auprès de l'Égypte est illusoire. Donc je lis les trois premiers versets. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas leur regard sur le sang d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Tu es quand même sage. Il fera venir le malheur et ne retirera pas ses paroles. Il se dressera contre la communauté des méchants et contre le secours apporté par ceux qui commettent l'injustice. L'Égyptien est un être humain et non Dieu. Ses chevaux ne sont que chair et non esprit. Quand l'Éternel déploiera sa puissance, le protecteur sera ébranlé. Le protégé tombera et tous ensemble ils disparaîtront. Donc, pourquoi Dieu est plus fort? Bon, c'est Dieu et pas un homme. Et il agit avec son esprit et pas uniquement avec la chair. Donc, il vaut mieux compter sur Dieu. J'aime bien ce petit début du verset 2. Lui aussi, cependant, il est sage. Dieu, la sagesse de Dieu est quand même plus sage que l'intelligence des hommes. Même la folie de Dieu, d'après 1 Corinthiens. Mais et pourquoi? Versets 4 à 6. L'Éternel est fort et compatissant. Et il exprime avec deux images. L'Éternel est comme un lion qui est fort et qui ne va pas se laisser arracher sa proie. Et il est comme un oiseau qui déploie ses ailes pour couvrir. Donc ça, c'est une image qui est souvent utilisée dans la Bible pour couvrir et protéger les petits poussins, si on veut. Donc voilà les deux images complémentaires pour décrire Dieu. Donc je vais lire les versets 4 et 5, on a déjà lu le verset 6. « Or voici ce que m'a dit l'Éternel, lorsque le lion ou le lionceau rugit au-dessus de sa proie, même si tous les bergers ont été rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur vacarme. De même, l'Éternel, le maître de l'univers, descendra pour combattre sur le mont Sion, donc c'est Jérusalem, et sur sa colline. » Deuxième image, « Tout comme des oiseaux déploient leurs ailes, l'Éternel, le maître de l'univers, étendra sa protection sur Jérusalem, il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. » Donc Dieu est fort, il est compatissant. Ça c'est le message du début à la fin de la Bible. Dieu est fort, il est compatissant. Et en fait, à la fin, il y a quelques versets, bon, j'ai lu pour être complet, les versets 8 et 9, un petit retour à la situation des Assyriens pour rappeler leur chute inévitable. L'Assyrien tombera sous les coups d'une épée qui n'est pas celle d'un homme, une épée qui n'est pas humaine, l'engloutira. Il prendra la fuite devant l'épée et ses jeunes gens seront soumis à la corvée. Le plus solide s'évanouira tant il aura peur et ses chefs seront terrorisés devant l'étendard, déclare l'Éternel, qui a son feu à Sion et son four à Jérusalem. Donc, petite conclusion. Je rappelle Romains 15, 4. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, la grâce de Dieu et la repentance est nécessaire pour notre conversion. Si nous n'avions pas fait grâce, on serait perdu. Et dans sa grâce, il nous convainc de péché par l'Esprit pour que nous puissions revenir à lui. Et la deuxième chose, c'est que cette grâce de Dieu et notre repentance est aussi valable tout au long de notre vie. Parce que chaque fois que nous péchons, si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous laver de toutes nos iniquités. Donc, on vit non pas d'amour et d'eau fraîche, mais de repentance et de grâce, on va dire. Ça, c'est le fond de notre vie chrétienne, de repentance et de grâce. Et quand on pense à cette salade de fruits, des fruits de l'esprit, voilà, on cherche à vivre ça par la grâce de Dieu, et si jamais on n'arrive pas, voilà, on lui demande pardon, et là, Dieu pardonne, oublie, et on repart en essayant de faire mieux. Donc, je reviens à ce petit verset où j'ai donné la mauvaise référence. Tout est faux, parce que c'est chapitre 30 et le verset 21. Chapitre 30, c'est ça. Alors, c'est 30-21. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Donc, je pense que ce que Dieu veut nous dire, c'est de l'écouter. Dans le monde actuel, une petite expression, on dit souvent, il faut s'écouter soi-même. Il faut écouter ses désirs, il faut écouter ce que l'on veut, etc. pour le développement personnel. Non, il faut écouter Dieu. Donc, il faut demander que nous restions sensibles à sa voix. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire à partir de ce texte. Je trouve que s'il y a un contexte historique qui est vrai, il y a aussi un message pour nous qui est tout aussi pertinent pour nous aujourd'hui. Je vais prier.